Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'éloigne un tout petit peu du Big Five, mais on ne part pas très loin. On va au Portugal prendre des nouvelles d'André Di Maria. L'Argentin réalise une saison magnifique au Benfica Lisbonne, le club de ses débuts européens. Toujours en course pour le titre, toujours en course en Ligue Europa. À 36 ans, Di Maria s'est vite rendu indispensable, comme toujours, ou presque. On va prendre le temps aujourd'hui de revenir sur sa carrière fantastique et d'expliquer pourquoi c'est un joueur à part, un gaucher fabuleux, un passeur d'exception. Comment a-t-il évolué au fil des années? Quelles traces a-t-il laissé à Madrid et Paris notamment? Et pourquoi avoir choisi de retourner à Lisbonne? On parlera évidemment de son histoire d'amour avec la sélection argentine et avec Léo Messi, entre autres. Pour m'accompagner aujourd'hui, Dave Apadou de France Football. Bonjour Dave.
Hola.
Je ne présente plus José Barroso qui était là la semaine dernière. Bonjour José.
Bonjour.
Et puis Régis Dupont est là également, notre monsieur de Portugal. Bonjour Régis.
Bonjour.
Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. André Di Maria, c'est le dribble en contre-pied explosif, la passe courte ou longue, les centres exceptionnels. Di Maria, c'est aussi la frappe précise ou puissante, la vitesse en conduite de balle, les appels tranchants dans l'espace libre. Di Maria et son talent amènent l'équilibre dans la largeur et la profondeur. L'œil expert de Reynald Denoueix dans l'équipe il y a 13 ans, décrit très justement André Di Maria. L'Argentin toujours aussi emballant avec le Benfica cette saison, on en parlera dans la dernière partie de cet épisode. Messieurs, quand on vous parle d'André Di Maria, à quel match, quelle action, quelle passe décisive, quel but vous pensez en premier lieu?
Alors moi, ce serait un geste, c'est pas un but parce qu'il l'a fait plusieurs fois, c'est l'extérieur du gauche. Il le fait pas, il le faisait pas à chaque match et c'est peut-être pas lui qui le faisait le mieux. Enfin, c'est peut-être pas le joueur auquel on attache ce geste le plus facilement, mais c'est un de ceux qui le faisait le mieux. Et surtout, ça montre ce que c'était ce joueur, l'inspiration, une certaine grâce, une certaine idée de la grâce. Et puis l'efficacité quand même, même si on en parlera, c'était un des objets de débat de ce joueur au fil de sa carrière. Mais au final, on en parlera aussi, un joueur qui a été tellement décisif pour ses équipes et pour sa sélection. Donc voilà, cet extérieur du gauche, délicieux.
Moi, ce sera un intérieur du gauche. Le dernier que j'ai vu d'André Di Maria, c'était à la Beaujoire avec la Juventus, quand il plie le match sur une frappe complètement incroyable. Personne ne s'imagine même qu'il va frapper. Il prend le ballon, il l'envoie dans la lucarne opposée. Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est un joueur largement au-dessus du lot, en tout cas pour la Ligue Europa, largement au-dessus du FC Nantes et même largement au-dessus de la Juventus à cette époque-là. Ce jour-là, on l'attend, la Juventus est en difficulté et il claque un triplé, il est exceptionnel.
D'ailleurs,
moi, ce serait plus une allure. Moi, je partage évidemment tout ce qui a été dit, mais il y a le côté espèce de physique comme ça, un peu frêle, des jambes qui n'ont pas l'air super costauds, et pourtant une capacité à changer de direction, à toujours aller vite avec la balle, à être déroutant pour l'adversaire, même pour l'observateur. Et il y avait quelque chose comme ça de chaloupé chez Di Maria, et en même temps tout en vitesse. C'est presque plus une allure qui est très peu commune en fait dans le football et surtout le football moderne où on a l'impression quand même qu'il faut avoir une dose de muscle, une dose d'explosivité, etc. Et lui, on a l'impression que tout était dans une espèce de vivacité et surtout ouais, ce côté déroutant et qui est un petit peu, je trouve, un terme qu'on pourrait accoler à sa carrière parce que José l'a évoqué. C'est un joueur qui, paradoxalement, a souvent été brillant mais a souvent fait débat. Donc voilà, et c'est un joueur voilà, qui est compliqué à cerner.
Et c'est aussi pour ça qu'on lui consacre un épisode aujourd'hui. Bon alors, il a évolué dans les plus grands championnats, hein, sauf en Allemagne. Petit point palmarès, avec le Real Madrid, entre 2010 et 2014, il a remporté la Liga et la Ligue des Champions, la Décima, hein, on va en reparler, je pense. Et puis à Paris, entre 2015 et 2022, 5 titres de champion, 5 Coupes de France aussi. On va repartir un petit peu en arrière. C'est José Mourinho qui l'avait fait venir au Real en 2010 pour une trentaine de millions d'euros. Régis, à ce moment-là, est-ce que tu te souviens du type de joueur auquel on avait affaire?
Ah, c'était totalement différent du joueur actuel parce que c'est déjà il jouait à gauche, ailier gauche. Dans l'équipe de Jorge Jesus, qui était une équipe hyper emballante. Personnellement, c'est sans doute la plus belle équipe portugaise que j'ai vu jouer lors de ce siècle, cette saison 2009-2010. Ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de bons joueurs, hein, David Luiz, Ramírez, Quintrao. Enfin, c'est vraiment une équipe très, très brillante, qui va de l'avant, qui est très spectaculaire. Et avec Di Maria, qui est hyper actif. Ce n'est pas le Di Maria d'aujourd'hui. C'est vraiment un Di Maria qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup de contre-efforts, qui déborde, qui centre, vraiment au service du collectif. Pour le coup, assez peu dans la dernière passe, enfin dans la dernière passe évidemment ça lui arrive, mais assez peu dans la frappe et dans le but. C'est vraiment un joueur de collectif qui est là pour servir les autres, et sa troisième année à Benfica, c'est effectivement sa meilleure, comme pour la plupart des joueurs qui jouaient à l'époque à Benfica. On pense à ce moment-là que c'est un grand joueur qui va s'épanouir dans ce rôle d'ailier gauche.
Il est élu cette année-là meilleur joueur du championnat. Benfica remporte le titre. Au Real, il n'est pas forcément utilisé exactement de cette façon lorsqu'il débute.
Oui, même pas du tout, parce qu'assez rapidement, José Mourinho va l'installer à droite, donc en faux pied en quelque sorte. C'était quelque chose qui commençait à se mettre en place un petit peu partout, ici Robben, la Ribéry, etc. Et lui, du coup, ses vrais ailiers, on va dire, sur leur pied fort, de plus en plus, on les installait à lui. C'était vraiment une vraie transformation. On se souvient qu'il y avait Özil en 10, évidemment, Cristiano Ronaldo sur le côté gauche, lui aussi en étant rentrant. Et effectivement, avec cette capacité qu'en plus, on va de plus en plus découvrir sur Di Maria, qui va devenir une signature. On parlait de ce match à la Beaujoire. J'ai l'impression que c'est une synthèse de tout ce qu'il fait. C'est cette capacité à rentrer pied gauche et en fait à s'ouvrir l'angle avec son pied, qui est un pied fabuleux. Parce qu'en fait, avec ce pied, il pouvait absolument tout faire. Effectivement, du centre au second poteau, de la passe croisée intérieure, de la frappe, parce qu'il a une très bonne frappe.
On se souvient de la frappe en 2018 contre la France.
Exactement, voilà. Et avec une sorte de soudaineté, parce qu'il y a toujours ce côté un peu frénétique dans son jeu. La pose d'appui est très, très rapide. Et effectivement, c'est un joueur qui a commencé à se développer là, même si on va voir que ce n'est pas à ce poste-là qu'il va écrire sa plus belle page au Real.
Avant de revenir là-dessus, ailier droit, ailier gauche, où est-ce que tu l'as trouvé le plus performant, toi, José ?
Mais en fait, c'est aussi une de ses signatures, c'est qu'il avait une telle polyvalence. Alors le summum, mais qui a confiné au ridicule, ça a été à Manchester United. Donc Luis Van Gaal le fait venir après le Real, justement, il va être transféré à Manchester United. Van Gaal l'adore, il le fait venir, c'est vraiment son choix, il n'est pas du tout imposé. Et ça va être une catastrophe, ça va être un échec. Alors, en partie pour des raisons humaines, ça s'est très mal passé pour sa famille.
Parce que ça commence très bien. Les tout premiers matchs sont très très bons, dans la foulée de sa Coupe du Monde qui était très bonne en 2014. Et effectivement, après, c'est ce que tu dis.
Et donc, il va le trimballer un peu aux quatre coins. On a l'impression que c'est un peu la rustine. Il va le trimballer aux quatre coins du terrain. Et bon, voilà, sportivement, c'est un échec, c'est sûr. Mais au Real, ce qui est super, c'est qu'il peut être utile. On l'a beaucoup vu au PSG, en fait, on ne l'a pas assez souligné, mais on se souvient surtout de... Donc, il va atterrir ailier droit essentiellement pendant toute sa carrière parisienne. Mais c'est un joueur qui a été hyper efficace aussi au milieu de terrain quand il a dépanné comme relayeur, qui a été très utile justement pour le collectif, dans un groupe où il y avait ce qui ne brillait quasiment que par ses individualités. Alors, lui aussi a une individualité, mais pas que. Et donc, au Real, quand Ancelotti arrive, il y a aussi un certain Gareth Bale qui arrive. Et donc, de la même manière qu'on l'a basculé à droite, j'imagine principalement parce qu'il y avait un certain Cristiano à gauche, eh ben, on va faire de la place aux Gallois. Et donc, du coup, Ancelotti a la bonne idée de suivre un exemple, puisque la première idée vient de Diego Maradona, qui, en sélection à la Coupe du Monde 2010, le met comme relayeur gauche à la surprise générale, parce que de la même manière, il y avait Tevez, Higuain et Messi devant. Et donc, du coup, il n'y avait pas de place. Donc, selon la théorie selon laquelle les bons joueurs peuvent jouer ensemble, Ancelotti le met aussi relayeur gauche. Et donc, il va écrire, comme tu le dis, sa plus belle page avec le Real, cette finale de la Ligue des Champions 2014, où il est exceptionnel. Alors, je crois qu'il y a Modric, mais je ne sais plus qui est le troisième milieu de terrain. Mais en tout cas, il survole totalement la finale. Et lui éclate le match de sa classe.
Même un peu plus que la finale, enfin, dans mon souvenir, les quelques mois qui précèdent la finale, à partir du moment où il passe dans ce rôle en Ligue des Champions, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on retient Ronaldo, on retient tout ça, évidemment, tous ces joueurs décisifs. Mais c'est lui, finalement, le petit chaînon manquant au Real que trouve Ancelotti un peu par hasard, un peu par la force des choses. Finalement, c'est André Di Maria.
Oui, ouais, parce qu'il compense en fait pas mal les montées de CR7. Il donne une assise aussi plus solide à cette équipe.
Oui, en fait, il lui donne un bon mix entre activité, parce que c'est un joueur extrêmement, extrêmement actif, alors surtout dans ces années-là où il est vraiment à son sommet athlétique, mental aussi, parce que c'est aussi une question d'implication. On sait que parfois, ça a été un peu fluctuant selon ses statuts, mais aussi de créativité, parce que ce même Real met une ratatouille soignée au Bayern de Guardiola en demi-finale. Il leur colle quand même 4-0. Et avec une démonstration de vitesse, de technique, d'enchaînement, de jeu en transition. Je crois qu'il n'y avait que 30% de possession de balle, mais je crois qu'il leur avait mis, 4 buts. Et Angel Di Maria leur donne ça, c'est-à-dire cette capacité à avoir de la vitesse, de la technique, de l'activité. Effectivement, cette intelligence de jeu pour compenser les replacements, on va dire, aléatoires de Cristiano, ou en tout cas peut-être ses recentrages, puisqu'il commence déjà à rôder très près de la zone de vérité CR7. Et Di Maria va fitter comme un plug, quoi. Il va à chaque fois exactement dans la bonne zone avec cette activité, cette intelligence et cette technique. Franchement, c'est une très très belle séquence de Di Maria au Real. Elle est invraisemblable.
Et c'est la période où il commence justement à devenir un joueur très mature. C'est ça qui est assez génial. C'est ce que vous le disiez au début de sa carrière. Et donc, il commence à Rosario aussi, côté gauche, ailier gauche. Et en fait, c'est un joueur qui est, comme tu le disais, déroutant parce qu'en fait, il n'est pas fini. Et donc, c'est un joueur explosif de débordement qui fait des déséquilibres. Mais en fait, ça ne sert souvent pas grand-chose, en tout cas. Pas au niveau que ça le deviendra par la suite, hein, puisqu'on le rappelle, c'est le meilleur passeur de l'histoire du PSG. Donc, ça veut dire quelque chose sur cette finition, cette capacité à la finition. Et aussi dans le dernier geste, puisque on en parlera aussi, mais il a été décisif. C'est un peu monsieur final, quoi. Un des regrets de sa carrière qui a été un peu effacé depuis, c'est la finale de la Coupe du Monde 2014, où il est blessé, notamment parce que par choix du Real, il y a des échanges entre le Real et la sélection. Et en fait, comme le Real craint qu'il revienne blessé, ben, du coup, ils vont s'incliner, la sélection va s'incliner, l'AFA, et donc il ne jouera pas la finale. En raison pour ça, il l'a raconté de manière assez émouvante.
Il a eu sa revanche un peu plus tard.
Et voilà, exactement.
Malheureusement.
Voilà. Je n'osais pas le dire.
Oui, bah, c'est sûr que c'est l'homme hein, des grands matchs, hein, André Di Maria. Buteur en finale de la Décima, on l'a dit. Buteur en finale du tournoi olympique à Pékin en 2008, hein, médaille d'or à la clé. Buteur en finale de la Copa América en 2021 et donc contre nous, il y a un peu plus d'un an. C'est la marque des très, très grands joueurs, d'être décisifs comme ça, lors des matchs les plus importants de leur carrière.
Oui, en tout cas, il a toujours montré cette capacité à se mobiliser pour des rendez-vous assez précis comme des finales, et quand on abordera la période du PSG, se mobiliser quand, par exemple, il est un peu plus contesté sportivement, quand on lui met un Draxler dans les pattes. C'est quand même quelqu'un qui a parfois été un peu à réaction, ou en tout cas qui a un peu ciblé ses rendez-vous, on va dire, ses périodes de grâce, de forme, d'investissement aussi. C'est pour ça que je parlais du mental sur son rôle de milieu de terrain. Il avait quelque chose aussi à démontrer. Et il avait été un peu bougé de sa position préférentielle par l'arrivée de Gareth Bale, qui est un monstre à ce moment-là. Et je pense que Di Maria, voilà, il avait une capacité à sélectionner ses moments. Alors, certains vont y voir une preuve de force, ça peut être ce cas-là. D'autres vont y voir peut-être une forme aussi de frustration, de se dire, mais pourquoi il n'a pas été toujours aussi investi? Il y a une sorte de mystère un peu aussi, dit Maria, là-dessus.
Comment est-ce qu'il est devenu aussi fin techniquement? Parce qu'il y a forcément une part d'inné, mais est-ce que c'est un gros bosseur à l'entraînement, par exemple?
En tout cas, c'est un moins gros bosseur sur le terrain, c'est surtout ça, enfin, comme beaucoup de joueurs. Il est arrivé effectivement à Benfica, il a une telle activité que quand il s'en va d'ailleurs en 2010, son successeur c'est Nico Gaitan, et la première chose qu'on reproche à Gaitan, c'est de ne pas courir, de ne pas faire assez d'efforts par rapport à Di Maria. Donc c'est vraiment déjà un joueur qui, au tout départ, effectivement, se démarque par son activité. Après, il a compris que pour être vraiment efficace, il fallait peut-être être un peu moins actif et agir au moment opportun. Et c'est en ça qu'il a vraiment beaucoup évolué, notamment au Paris Saint-Germain. J'ai trouvé qu'il n'avait pas encore trouvé l'équilibre à l'époque de Manchester. Il ne savait pas trop où se placer. On a expliqué pourquoi. Et au Paris SG, effectivement, il est devenu un joueur qui choisit ses moments. Peut-être un peu trop parfois, dans une équipe où il y avait d'autres joueurs qui choisissaient leur moment, donc ça faisait peut-être un peu beaucoup.
C'est là que les problèmes commencent.
Mais c'est aussi à cette époque-là qu'on l'a vu de plus en plus souvent décisif. Effectivement, tu rappelais la finale de la Coupe du Monde, mais finalement, son action la plus décisive à la finale de la Coupe du Monde, c'est surtout de provoquer ce pénalty qui change tout. Tout en acceptant de jouer couloir gauche, alors que ça fait quand même des mois qu'il joue à ce moment-là couloir droit. Donc c'est vraiment un joueur de grand événement et surtout qui sait effectivement quand choisir, même si au fil des années, forcément, il a de plus en plus de mal à être là dans tous les grands matchs. C'est logique.
Quel souvenir tu gardes de lui sur cet aspect-là, le travail au quotidien quand il était à Paris?
C'est un joueur sérieux, un des premiers arrivés, bon, c'est facile à dire, mais c'était le cas, un des premiers arrivés, un des derniers partis. Un peu comme, alors c'est pas du tout le même genre et la même mentalité, mais il me rappelait un peu Thiago Silva, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très, toujours très ou charismatique ou... l'inverse d'antipathique, quoi, de sympathique, on va dire, notamment auprès des autres, parce que c'est quelqu'un d'assez renfermé et pas toujours très...
Pas très expansif.
Voilà. Ouais, et puis pas toujours très convivial, à part quand on le connaît pas ou quand on fait pas partie de sa bande, on va dire. Même s'il a un côté très réservé de l'extérieur. Hein, mais à Paris, au demeurant, c'est quelqu'un qui, comme Thiago Silva, a toujours énormément pris soin de lui. Et ça, c'est aussi un des secrets de sa longévité. Enfin, il n'y a pas de secret, à vrai dire, comme Zlatan, comme Thiago Silva. C'est des joueurs qui ont vachement fait attention à eux tout au long de leur carrière. Lui, jamais d'extra, c'est pas du tout un fêtard, hyper famille, et donc du coup, il est toujours là à 36 ans.
Et je pense que ça, c'est une clé, ce côté réservé, un peu à part de Di Maria, c'est une clé aussi pour comprendre un petit peu le décalage qu'il y a entre la perception ou les projections qu'on a pu en avoir. Moi, je me souviens quand il arrive à Paris, c'est le joueur qui est présenté comme celui, parce que ça, c'était la quête parisienne à chaque fois, le joueur qui va faire franchir un cap supplémentaire au club parisien. Il y avait ce côté un peu homme providentiel.
Et qui va leur faire gagner la Ligue des Champions.
Aussi. Oui, voilà, c'était ça. Et on a projeté sur Di Maria des choses comme ça, une forme de leadership qu'il n'a pas, en fait. C'est plutôt un leadership par l'exemple, par ses productions. Il est inspirant. C'est quelqu'un qui est très renfermé, effectivement. C'est quelqu'un qui n'est pas très généreux de lui-même, hormis... En sélection, on sent que c'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas s'il est très chaleureux, mais en tout cas, on sait qu'il s'entend bien avec ses joueurs. Évidemment, il y a cette proximité avec Messi. On le sent beaucoup plus dans son habitat. Le reste du temps, ce n'est pas quelqu'un qui entraîne les autres. Et je pense qu'il y a aussi ce mystère-là. Il y en a qui mettent en scène un peu leur professionnalisme, le côté première arrivée, dernière partie, etc. Di Maria, on a l'impression qu'en fait, il est pas le metteur en scène de lui-même, quoi, en quelque sorte. Il vient, il fait ses prestations, il les fait bien... ou moins bien, en tout cas il s'entraîne, il est sérieux, mais il n'y a pas un côté où il emmène les autres dans son sillage. Et ça va créer aussi une forme de décalage et d'incompréhension, parfois quand il y a des périodes un peu de méforme, comme il n'a pas un langage corporel extrêmement vindicatif et tout, on va se dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de détachement chez lui? C'est toujours un petit peu ambivalent.
Et c'est aussi pour ça, comme tu dis, ambivalent c'est le bon terme, c'est qu'il a laissé une trace assez contrastée à Paris, alors principalement positive, avec ce record de meilleur passeur, et bon, c'est quand même les belles années du PSG, hein. Mais pour autant, on estime qu'il n'a pas donné tout ce qu'on espérait, voilà, de lui, et effectivement, tu as raison, c'est pas le leader qu'on attendait, en tout cas pas le leader technique qu'on attendait. Voilà, il fallait quelqu'un à côté de lui qui accepte de prendre la lumière, qui accepte de prendre éventuellement les coups, et lui est plutôt quelqu'un qui aime bien se mettre sous l'aile, bon, comme oui, certains Léo Messi.
Il faut un peu plus un mâle alpha, en fait, autour de lui.
C'est ça.
Ça a pu être, quand Neymar est arrivé, bon, bah, tout de suite, il a compris que ça allait être l'équipe de Neymar, pas la sienne. Évidemment, Messi, bon, bah, après, devant Messi, à peu près tout le monde s'incline, mais on sent que c'est pas son tempérament, quand bien même, il n'y aurait pas ça. Neymar et Messi, quoi.
Non, mais c'est l'histoire de sa carrière. Au Real, il est très bon à une époque où il y a Ronaldo, où tous les autres prennent la lumière. À Paris, il est bon quand, effectivement, il y a Neymar ou avant, quand il y avait Zlatan aussi, avec lui au tout début. Mm-hmm. Voilà, il a besoin d'être, pas dans l'ombre, mais au service de la star.
Une sorte de super lieutenant, en quelque sorte.
Exactement, c'est vraiment son
mais
rôle.
Super, super, par contre.
Et c'est un discours qu'il a toujours tenu lui-même. Alors, nous, de notre point de vue, on se dit, voilà, un mec de cette stature, avec de telles ambitions et un certain ego. De l'extérieur, on se dit, mais voilà, il va lui manquer quelque chose. Mais en fait, quand tu discutes avec lui, il assume ça, il assume ce côté. Mais moi, je suis un serviteur, je suis un porteur d'eau. Et il lui disait, moi, je préfère 1000 fois faire une belle passe que de marquer un but, en fait.
Oui, mais j'allais vous demander, est-ce que c'est cette mentalité aussi qui en a fait le si grand passeur décisif qu'il a été? Parce que c'est le meilleur passeur de l'histoire du PSG, c'est aussi le troisième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière CR7 et Messi.
Mais je pense qu'il a pris conscience, ça parlait de la maturation dont on parlait tout à l'heure, il a pris conscience de ses limites, quelque part. Et alors, il y a eu tout un travail aussi, et notamment au Real, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il bascule vers autre chose parce qu'il se rend compte justement de ce qu'il peut faire et éventuellement de ce qu'il fait mal. Et donc, du coup, alors, c'est aussi porté par les événements, le fait qu'il soit remis au milieu. Mais c'est un joueur, pour moi, ça a toujours été un joueur de transition, mais c'est à 100%. Et là, pour le coup, c'était le schéma parfait. Il avait encore du volume, il pouvait encore fermer le couloir, etc., compenser. Et donc, du coup, c'est le moment où il bascule vers un autre Di Maria qui va être... plus fin, qui va avoir une meilleure compréhension du jeu et qui donc du coup va se mettre au service des autres en comprenant que, alors en choisissant peut-être, parce qu'il avait une telle finesse technique, il avait peut-être cette capacité d'être décisif et de mettre des buts merveilleux, mais pas à répétition, pas, voilà, c'est pas tout le temps, c'est pas CR7, c'est pas Messi, c'est pas Mbappé. Il savait ça et donc du coup il a réussi à faire une carrière, pas qu'un cas, ça serait très humiliant de dire ça, mais voilà, une carrière magnifique, mais en tout cas où... C'est plus, il y a plus d'équilibre entre justement ce qu'il va faire pour faire briller les autres et ce qu'il va faire pour faire briller, se faire briller lui et faire gagner son équipe. Et encore une fois, il a été décisif, on l'a dit, c'est assez extraordinaire au final.
Mais le malentendu, est-ce que c'est lui qui le crée ou est-ce que ce sont les gens autour de lui qui l'ont créé? Parce que finalement, c'est quand il arrive au PSG qu'on en fait une sorte de star, c'est quand on l'envoie auparavant à Manchester United... Qu'on lui prête un rôle qu'effectivement il ne peut pas tenir. Lui, quelque part, je ne dis pas qu'il n'a rien demandé, parce qu'évidemment, il est content, mais faire d'André Di Maria une star, alors que c'est jamais, ça n'a jamais été un joueur capable de mettre 20 buts ou 25 buts par saison, c'était un peu anachronique, en tout cas par rapport à la période dans laquelle on vit. Donc faire croire que ce joueur-là allait être effectivement le mal alpha d'un grand club, non. Ça peut être le mal alpha d'un club, effectivement, comme aujourd'hui Benfica ou comme la Juventus d'aujourd'hui, qui n'est plus la Juventus d'il y a 10 ans.
Son meilleur classement au Ballon d'Or, c'est 10e en 2014. Est-ce que ça vous semble sous-estimé ou au contraire, ça colle à tout ce que vous dites depuis quelques minutes?
Les deux sommets, alors sortis évidemment de cette finale de Coupe du Monde 2022, on est bien placé pour le savoir. Mais dans une Coupe du Monde où il a été blessé, dans une année qui n'avait pas été simple, mais on va dire l'année de plénitude, celle qu'on retient comme son année de référence, c'est 2014. Il y a évidemment cette épopée avec le Real, ce parcours victorieux. Et il y a sa Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que le leader technique, au moins autant que Messi, qui est encore un peu timide à ce moment-là, qui n'est pas le Messi qu'on va voir des dernières années, qui est un peu écrasé avec le maillot, mais là je pense que Régis, il avait suivi ça de plus près encore, mais moi je me souviens de cette Coupe du Monde où on a un Di Maria qui est à son sommet, et effectivement la blessure est un tournant dans le parcours de l'Argentine, parce que Messi sur les dernières marches avait un peu plus de mal en termes peut-être émotionnels aussi, enfin on le sentait un petit peu écrasé, et Di Maria ressort de cette Coupe du Monde un petit peu comme entre guillemets le grand vainqueur, c'est-à-dire waouh, s'il avait été là, l'Argentine gagnait, et du coup peut-être qu'on a fait des projections sur lui, que ce soit à Manchester ou ensuite après au PSG, comme quelqu'un en fait c'est lui qui te fait gagner. Et alors, c'est un joueur qui effectivement est très important, mais comme on a dit, on a mal lu certainement la personnalité de ce garçon qui est très secret en même temps.
Et je pense qu'il est aussi victime, entre guillemets, du fait qu'il y a eu deux transferts monumentaux coup sur coup.
Oui.
Donc à Manchester, je crois que c'est 80 millions, si je ne dis pas de bêtises, ou 70 millions à Manchester.
75. Et à ce moment-là, c'est le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue.
D'accord. Et après, il arrive à Paris, 63 millions. Donc voilà, en deux ans... donc après il faut assumer.
Mais c'est vrai que 2014, c'est aussi comme tu le disais José, 2014 c'est le moment où il est dans sa plénitude athlétique aussi. Depuis on ne l'a plus sans doute revu à un tel niveau, capable de faire autant d'efforts tout en ayant déjà sa justesse technique. Depuis il a été obligé en quelque sorte de choisir, quand on atteint un certain âge dans son rôle, quand on a autant d'explosivité, il faut un peu modérer ses efforts, même si on devrait pas le dire, mais quand on joue deux matchs par semaine pendant autant de saisons, et bien évidemment qu'à partir de 25-26 ans, on fait plus tout à fait les mêmes efforts que ceux qu'on faisait à 20, 22 ou 23 ans.
Il y a des joueurs qui commencent avant à faire moins
d'efforts. Oui.
J'ai rien dit.
Ça plaît une étude en 2014, pas en 2016-2017, pendant peut-être les plus belles années de Paris en Ligue des Champions.
Mais en termes d'influence et en termes de régularité, pour le coup, non, effectivement, c'est 2014 reste l'année référence pour lui. Mais après, oui, il fera encore avec l'expérience, mais ça sera plus ponctuel, même si ces années PSG sont quand même, quand même chapeau. Quoi.
Bien sûr, chapeau pour ça. Et puis évidemment, quand on évoque Paris, on évoque Di Maria. Il y a évidemment ce rendez-vous invraisemblable face à Barcelone.
Bah, le doublé.
Le 4-0, 6-1, quoi. Enfin, 1-6. C'est-à-dire qu'à l'aller, il est un des grands bonhommes du match aller, qui est, à mon avis, le plus grand match d'un club français en Ligue des Champions et peut-être même en Coupe d'Europe globalement. Moi, je pense que c'est un match, c'est une perfection, c'est un sommet de football. Et Di Maria est un acteur majeur. Il met d'ailleurs un super but aussi, la fameuse frappe enroulée lucarne, etc.
Après un coup franc direct, il avait obtenu la note de 9 dans l'équipe. C'était en tout cas, pour le journal, c'était le meilleur joueur du match.
Voilà, exactement. Il avait été monstrueux. Ils avaient tous été monstrueux. Mais lui avait été vraiment particulièrement brillant. Et effectivement, il y a ce scénario rocambolesque au retour, avec la faute de Mascherano qui doit lui donner le pénalty.
Il aurait pu être le héros.
Exactement, il aurait pu être le héros et parvenir sur l'arbitrage. Je pense que ce moment-là est un moment clé dans son histoire, parce qu'à ce moment-là, il est dans une forme incroyable. Il tire aussi les autres vers le haut à sa façon, pas en côté mal alpha, mais en côté leader d'excellence technique. Et il y a ce rendez-vous au Camp Nou qui casse en fait l'histoire du PSG, qui va longtemps la traumatiser. Peut-être même que les fantômes, ils existent encore. Ça, José, peut-être qu'il sait mieux que nous. Mais je pense que ça va compter dans l'histoire aussi de Di Maria, parce qu'à partir de ce moment-là, après arrive Neymar, et l'histoire sera plus la même. Elle sera moins centrée sur lui. Et là, il va être davantage à essayer de se faire sa place dans ce quatuor qui est d'abord Cavani, Mbappé, Neymar, et puis ensuite l'arrivée de Messi et compagnie, quoi.
J'ouvre un petit chapitre argentin, on en a parlé. Quelle trace vous pensez qu'il va laisser dans l'histoire de sa sélection ? Est-ce que ce sera seulement à jamais le grand ami de Léo Messi, ou quand même un petit peu plus que ça ?
Ah non, il est bien plus que ça, mais définitivement, ça fait aucun doute. Alors, il restera forcément toujours un peu à l'ombre de Messi, parce que tout le monde est à l'ombre de Messi. Mais c'est sûr que la capacité à avoir été décisif lors de grands matchs, y compris, tu l'as dit, dès 2007-2008, parce qu'il est aussi... Donc c'est là où se forme la bande avec Agüero, avec Messi, c'est qu'en fait, ils jouent les Jeux Olympiques 2008 ensemble, ils font médaille d'or, et donc ils ont toujours gardé contact. Ils avaient 19-20 ans, et ils ont gardé contact toute leur vie, ils ont fait toute leur carrière ensemble, en sélection aussi, évidemment, Mascherano, j'oublie. Donc cette petite bande s'est constituée à ce moment-là. Et donc lui, dès 2007, champion du monde de moins de 20 ans, l'année d'avant c'était Messi, ou il y a 2 ans avant c'était Messi, et donc qui était surclassé. Donc Di Maria est buteur en finale, auteur de l'unique but. Et donc du coup, il est déjà décisif, il montre déjà qu'il est décisif. Et il va l'être jusqu'à la fin, donc jusqu'à la Coupe du Monde 2022, la Copa América 2021, où il marque le seul but, un but magnifique.
Contre le Brésil en finale.
Voilà, et qui est un peu cette compétition. Alors il y avait la Copa América précédente, qui avait déjà, 2019, qui avait déjà permis d'enclencher le mécanisme Scaloni. Ils perdent en demi-finale contre le Brésil, mais c'est un peu la période charnière, la compétition charnière pour cette génération-là. Et donc la Copa América 2021 le fait basculer vraiment dans autre chose, et il va devenir vraiment, alors il l'était déjà, mais je veux dire, un des leaders, un des maîtres de cette sélection, quoi. Et donc il est définitivement passé à la postérité avec ce doublé Copa América Coupe du Monde.
Moi, pour prendre un exemple qui ne parlera qu'aux gens de ma génération, pour moi, c'est le Burruchaga de Maradona, quoi. C'est vraiment le supplétif. Le jour où Messi est un peu moins bien, où il a besoin d'un recours, c'est Di Maria qui arrive. Comme ça s'était passé pour Maradona et Burruchaga en finale en 86, finale 86, où finalement le grand homme de la finale, c'est Burruchaga, parce que Maradona, il est complètement bloqué par Mateus. Et c'est vraiment ça, c'était son homme, son compagnon. D'ailleurs, Burruchaga devait partir à Naples à l'époque, ça ne s'était pas fait, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment ça, c'est le lieutenant, excellent techniquement, et qui se comprend parfaitement avec son maître Lionel Messi. Et c'est assez rare quand même, c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents de joueurs comme ça qui, pendant 15 ans, hein, un peu plus de 15 ans même maintenant, se suivent en sélection et sont vraiment liés par un destin commun. C'est extrêmement rare.
Oui, puis avec presque une espèce de constance, ça paraît fou même de dire ça, mais presque une constance encore plus grande de la part de Di Maria. Parce que Messi, alors c'est parce qu'on le juge au niveau de Messi, mais Messi était tellement fort avec Barcelone, et parfois un peu rattrapé par une forme de pression en sélection, comme s'il avait mis du temps avant de maîtriser cet écosystème, cet environnement, parce que Messi, en fait, il est presque plus catalan qu'argentin, au fond, et on le renvoyait à Maradona. Enfin, c'était compliqué pour Messi, alors que Di Maria, il était là tout le temps, on l'a dit, dès les compétitions de jeunes. La Coupe du Monde 2014, elle est magnifique de bout en bout. En 2018, il tient encore son rang, je veux dire, contre l'équipe de France. Il le fait, le match, et il nous pose d'énormes problèmes, d'ailleurs, il marque. Et en 2022, on n'en parle même pas, il se blesse, il revient et il sort cette finale qui est un bijou incroyable. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là. de cette constance de Di Maria, mais aussi une constance dans la relation avec, avec Messi. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté, en fait, sur qui était quoi. Évidemment que Messi, c'est le dieu, et qu'il y a pas de... mais qu'il a été son premier et meilleur lieutenant, une sorte, tu disais, Bruchaga Maradona, effectivement, nous, ça nous parle. C'est Scottie Pippen pour Michael Jordan, quoi, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le rôle de l'un et de l'autre.
Jamais contesté.
Exactement.
L'autorité.
Jamais contesté, et pourtant, je pense qu'il n'aurait pas pu rêver d'avoir meilleur numéro 2, Messi, en tout cas en sélection.
Et il évoluait souvent plus bas, d'ailleurs, avec la sélection.
Oui, bien sûr. 2014, c'est ça. Parce que toujours pareil, ce volume, cette intelligence, cette capacité. Alors là, pour le coup, il n'était pas feignant. Hein. En sélection, de toute façon, les mecs, ils sont toujours à 2000% dans les sélections sud-américaines et particulièrement argentines. Ça fait un peu cliché, mais c'est la réalité. Tu constates ça à chaque fois, et qu'ils sont capables de mourir sur le terrain, et c'est presque pas qu'une expression. Et Di Maria, pour le coup, était vraiment capable de jouer de tous les côtés. On l'a dit, toute sa deuxième partie de carrière se fait sur le côté droit, comme ailier rentrant, on va dire, ou joueur offensif rentrant. Et en finale, il sort un bijou sur le côté gauche, alors qu'il jouait plus depuis je ne sais combien d'années à ce poste-là. Et il nous a mis une misère quand même.
Oui, on s'en souvient douloureusement.
Oui, je sens la douleur.
Oui. J'ai jamais revu une seule image de ce match.
Faut pas.
On va arriver quand même à la fin de cet épisode. Hein.
On est à peine chaud.
Non, on va parler de Benfica maintenant, parce que l'été dernier, Di Maria a rejoint le Benfica Lisbonne, hein, où il avait passé trois saisons entre 2007 et 2010. Régis, qu'est-ce qui a guidé ce choix ?
Ce qui a guidé ce choix, c'est déjà son envie à lui, et c'est aussi sa relation avec le président, Rui Costa. C'est vraiment l'histoire de Rui Costa qui a voulu Di Maria, et donc ça a matché. Di Maria avait envie de boucler la boucle européenne. Bon, c'est un peu la même histoire que Ronaldo à la Juve. À la Juve, ça allait, mais sans aller trop non plus. Il sentait bien qu'avec la Juve, il n'allait pas atteindre les sommets européens, que c'était fini pour lui. Il a envie de boucler la boucle à Benfica pour l'Europe, et puis sans doute après à Rosario en fin de saison. Donc c'est vraiment l'histoire de cette rencontre. Parce qu'on peut penser que si on avait demandé à l'entraîneur, Roger Schmidt ne serait pas forcément allé chercher Di Maria. En tout cas, il serait sans doute allé chercher le Di Maria d'il y a 15 ans, pas celui d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'il faut préciser, c'est un entraîneur qui a une exigence incroyable sur l'intensité qu'il demande. On se souvient Paris qui avait souffert en phase de poule la saison dernière. Et Roger Schmidt, c'est une exigence incroyable.
Voilà. Et là, avec Di Maria, malheureusement, qui en plus est associé avec des joueurs qui eux-mêmes ne sont pas toujours impeccables au niveau de l'investissement et de l'intensité. Hein, la ligne David Neres, Rafa Silva et Di Maria, une fois que le ballon est perdu, ça laisse beaucoup d'espace. Voilà, on peut penser que ce n'était pas le choix numéro un de l'entraîneur, mais c'est vrai que quand il est arrivé, ça a été un enthousiasme incroyable. Quand il est sorti aux fenêtres du siège de Benfica, il y avait une foule de plusieurs milliers de personnes qui pour l'acclamer. C'est vraiment symboliquement, c'était très très fort, et puis c'était le rappel pour Benfica de ces belles années, parce que quand même avec Jorge Jesus, il y avait c'est la première fois depuis très longtemps que Benfica arrivait à allier résultats et beau jeu. Et depuis, c'est quand même un héritage qui est resté. Benfica continue à très bien jouer depuis 15 ans, même s'il y a des hauts et des bas au niveau des résultats.
En ce qui concerne Angel Di Maria, la saison se passe plutôt bien. Deuxième meilleur buteur du club, deuxième meilleur passeur, le tout derrière Rafa Silva. Comment il est utilisé précisément d'ailleurs cette saison ?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, il a évidemment commencé côté droit. Il a commencé aussi très bien. Mais on va dire que sa saison, elle est bonne, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Et il y a une vraie coupure, j'avais noté, son cinquième but en championnat, c'est contre Porto le 29 septembre. Le sixième but, c'est le 14 janvier. Donc pendant ce temps-là,
il y a un
gros trou. Et ces derniers matchs, comme vous l'aurez noté, Benfica n'est pas vraiment au taquet ces derniers temps. Il y a eu la très lourde défaite à Porto, la défaite en coupe sur le terrain du Sporting. Deux matchs où Angel Di Maria n'a pas été très bon et où, sentant qu'effectivement ça ne marchait pas pour lui, il est passé côté gauche bizarrement. Et à chaque fois, ça a correspondu à la meilleure période de Benfica pendant ce match. Donc, il a un vrai. Dans le jeu, je pense qu'aujourd'hui, il serait sans doute plus utile côté gauche, même s'il ne peut sans doute pas déborder comme avant, ainsi de suite. Et il sent bien qu'en fait, il est remis en cause, parce que ces deux défaites, elles font très mal dans le bilan de Benfica. En Ligue des Champions, il a eu du mal à peser aussi. En Ligue Europa, c'est mieux. Comme si, quelque part, la marche aujourd'hui était un peu trop haute pour lui. Ce qui n'est pas non plus illogique. Et puis, lors du dernier match de championnat, Pour une fois, Roger Schmidt, qui ne fait jamais tourner, a fait beaucoup tourner. Il a sorti donc Rafa Silva, son meilleur buteur, Di Maria, qui était aussi sur le banc, et João Neves, sa nouvelle perle. Mais n'est entré en jeu en fin de match, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu particulier, que João Neves, comme s'il avait envoyé le message que pour Rafa Silva et Di Maria, la page était en train de se tourner. Et effectivement, on peut penser que, comme Rafa Silva, comme Nicolas Otamendi, qui lui-même est en fin de parcours, voilà, Di Maria est arrivé aussi dans une équipe qui est sans doute en fin de cycle et qui va beaucoup, beaucoup bouger en fin de saison.
Tu le disais tout à l'heure, il va certainement repartir à Rosario pour terminer sa carrière. Ce n'est pas encore officiel, mais selon toute vraisemblance, c'est ce qui va arriver.
Voilà, ce n'est pas officiel, mais c'est écrit, en fait, quelque part. Je pense que pour que l'histoire change, il aurait sans doute fallu que Benfica fasse une grande épopée en Ligue des Champions ou qu'il y ait l'espoir que la saison prochaine, Benfica ait une immense équipe. Ce ne sera certainement pas le cas. Comme je l'ai dit, il va y avoir des joueurs qui partent parce qu'ils sont en fin de cycle. Il va falloir vendre au moins Antonio Silva, le grand défenseur. Il va falloir essayer de retenir João Neves, la nouvelle perle, et c'est pas sûr. Donc quelque part, le plus simple à 36 ans, c'est d'aller rentrer en Argentine, où il est adulé, et finalement de rester malgré tout sur une bonne note à Benfica, où même si lors des gros matchs, il est moins décisif qu'il n'a pu l'être à une époque, il laissera malgré tout une bonne image.
Il reste très aimé à Benfica. Il y a eu le début euphorique, tu l'as dit, avec la Super Coupe, etc. C'est vrai que depuis, c'est un peu compliqué parce qu'il est rattrapé par le niveau aussi, puis par les années qui passent. Mais globalement, sa cote, elle est quand même très, très élevée là-bas. Même si, en fait, tu as l'impression qu'il y a une espèce de compréhension un peu globale, que ce soit de sa part ou de l'entraîneur, ou même de l'environnement du club, les supporters, peut-être même les médias. C'est que, voilà, on touche à la fin. Et vaut mieux partir sur cette note-là, quand elle n'est pas encore trop abîmée, et il a peut-être encore des choses à donner, effectivement, en Argentine, plutôt que de s'entêter. Mais je pense que ce n'est pas quelqu'un qui s'entêtera. Globalement, je veux dire, il ne s'est pas entêté à la Juve, il a vu que ce n'était pas fait pour lui, que tu ne joues pas au foot avec Allegri. Le dernier qui a joué au foot avec Allegri n'est pas jeune. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions, quand même.
Et il sait justement où il en est de sa carrière. Il a eu ce qu'il voulait. Il voulait un dernier contrat pour aller jusque... Alors, ce n'était pas prévu initialement. Il devait prendre sa retraite après la Coupe du Monde internationale. Finalement, il a décidé d'accompagner Messi jusqu'à la prochaine Copa América, pardon, l'été prochain. Oui. Et donc, du coup, il voulait, voilà, après la Juve, où il était en fin de contrat, un dernier contrat, il l'a eu. Alors, un club auquel lui aussi est énormément attaché. Il en garde des souvenirs personnels très, très forts de ses premières années en Europe, à Benfica. Et donc, du coup, il a terminé la boucle. Et là, c'est un peu la tournée des adieux, quoi. Ouais. Et donc, le point final sera à cette Copa América cet été aux États-Unis. Et donc, il espère le terminer par la grande porte, sortir par la grande porte de la sélection. Et effectivement, terminer à Rosario, où ça fait des années qu'il y pense, de terminer sa carrière là-bas, à la maison.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la première version de Benfica qu'il a connue, c'est une version très, très argentine, hein, dans l'équipe de Benfica. C'est une équipe qui joue un peu à l'Argentine. Et il y a beaucoup de Sud-Américains.
Il y avait encore Aymar à l'époque.
Il y a Aymar, voilà, qui est le dépositaire du jeu.
L'idole de Messi.
Il y a Cardozo. C'est vraiment une équipe très, très sud-américaine quand il arrive en Europe. C'est aussi pour ça qu'il s'est très, très bien adapté en arrivant. Et là, c'est un peu moins le cas dans l'équipe dans laquelle il est aujourd'hui.
Le Benfica Lisbonne qui s'apprête à jouer son 8e de finale retour en Ligue Europa. L'épopée est toujours possible en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers de partout à l'aller. On va s'arrêter là, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Tu n'es pas frustré, Dave ?
On va continuer dans le couloir.
Merci aussi à Régis Dupont et José Barroso. Merci à Léa Loustic pour la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.